Bonjour, je suis venu vous parler de la prochaine paracha, la paracha de Matot, qui va être lue ce Shabbat. Matot qui veut dire les tribus, mais qui veut dire aussi les bâtons. Il faudra comprendre pourquoi ce double sens. Et cette paracha tombe toujours pendant les 3 semaines de deuil. Les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av. Le 17 Tammuz, c'est la commémoration de la première brèche que les Romains ont faite dans les murailles de Jérusalem. Et 3 semaines après, le 9 Av, ils ont incendié le temple de Jérusalem. Le 9 Av commémore aussi la première destruction du temple de Jérusalem, bien avant, au 5e siècle, avant l'ère chrétienne. Voilà. Et en fait, il faudra comprendre pourquoi cette paracha tombe toujours dans les 3 semaines de deuil. Et nous allons apprendre des choses qui nous concernent tous, qui nous concernent au quotidien, même si je semble vous parler ici d'histoire ancienne. En fait, nous avons aussi la Haftara, c'est-à-dire le passage des prophètes qui suit la lecture de la paracha. La paracha est extraite de la Bible du Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah, les 5 livres de Moïse, et puis ensuite nous avons les prophètes. Alors dans ce passage des prophètes, on voit que Dieu montre à Jérémie un bâton d'amandier, je traduis mot à mot en fait, une branche d'amandier. Et pourquoi il lui montre en fait cela? C'est parce que l'amande, nous disent nos sages, il y a 3 semaines entre la floraison et le fruit. De la même manière, il y a 3 semaines, comme je l'ai dit, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Mais il y a un lien plus profond, c'est que l'amande, elle est amère au début et elle est douce à la fin. De la même manière, l'exil juif, il faudra comprendre pourquoi, sera amer au début, mais sera ensuite transformé en douceur. Si c'est cela la leçon de l'amande, alors pourquoi Jérémie, il a vu simplement une branche d'amandier où il n'y avait aucun fruit. Et on appelle ça makel, un bâton d'amandier. Alors, on explique que le bâton symbolise la force, c'est-à-dire qu'il faut se durcir dans l'épreuve de l'exil, et grâce à ce durcissement, alors on reviendra dans la terre d'Israël. Et effectivement, on peut remarquer que dans son exil, le peuple juif n'a pas baissé les bras, il a produit des gens immenses. Et sur le plan scientifique, et sur le plan Torah, tous les rabbins que nous avons eus, qui étaient immenses, qui étaient des géants, et qui ont produit tellement de livres et tellement d'enseignements, et aussi de grands scientifiques. Donc ce peuple n'a pas été anéanti par cette épreuve terrible de l'exil. Et en fait, comme je l'ai dit, l'idée de bâton, on la retrouve aussi dans le titre de la paracha. Matot, ça veut dire les tribus, mais ça veut dire aussi les bâtons. Il y a un deuxième nom pour désigner les tribus d'Israël, à savoir Shvatim. Mais ça veut dire aussi les bâtons. Alors pourquoi les tribus d'Israël sont appelées des bâtons et pourquoi 2 sortes de bâtons en quelque sorte? Alors on explique que Shevet, c'est la branche qui est encore fraîchement coupée de l'arbre, elle garde toute sa verdeur. Ce sont les tribus d'Israël, puisque le mot veut dire aussi une tribu et pas seulement un bâton, une branche. Ce sont les tribus d'Israël quand elles sont encore dans leur endroit naturel, c'est-à-dire quand elles sont dans le temple. Je veux dire en Terre Sainte. Et Matot, qui désigne également des branches, c'est la branche de l'arbre qui a été coupée depuis longtemps, mais de ce fait, elle durcit. Ce sont les tribus d'Israël lorsqu'elles sont en exil et elles doivent se durcir pour tenir. Et en fait, c'est un geste typiquement juif, en particulier des juifs d'Europe de l'Est, lorsqu'ils veulent redonner le moral à quelqu'un et lui dire « il faut te battre », alors ils ferment leur poing et puis on voit le poing qui dessine une courbe descendante d'abord, c'est-à-dire que la main va vers le bas et puis ensuite elle remonte brusquement. Ça veut dire « utilise ta descente pour mieux remonter ». Pourquoi ? Parce que finalement, toute occultation de la lumière, de la présence divine, de la force qui est en nous, c'est pour nous obliger à sauter encore plus haut et par nos propres forces. Je vais illustrer ça par un texte chassidique que j'ai traduit en français. Je vais le résumer simplement. Il dit qu'au moment où on s'élève en sainteté, par les voies communes, alors ça se fait avec un ordre, ça se fait avec une gradation, c'est peu à peu, etc. Mais s'il survient un empêchement, un obstacle, une dissimulation de la lumière, une occultation de la lumière c'est la présence divine et ça empêche d'aller plus haut, alors ça fait surgir chez l'homme des forces plus intenses et ça l'amène à sauter plus haut que si c'est une ascension qui se fait normalement par des voies communes sans être dérangé. C'est-à-dire que finalement, La perte d'Israël et la perte du Temple a obligé nos ancêtres pendant 2000 ans à aller chercher en eux-mêmes avec un effort immense ce qu'ils avaient perdu sur la Terre Sainte. Et donc c'est cela. La paracha de Matot qui se lit toujours pendant les 3 semaines de deuil qui commémore notre exil, eh bien Matot, ça veut dire les tribus, mais ce sont les tribus en exil parce que Matot, ça veut dire les bâtons, les branches quand elles sont depuis longtemps coupées de l'arbre. Mais elles durcissent, ces branches, quand elles sont sans l'arbre. Et ce durcissement, c'est cette résilience, le fait de prendre tout ce qu'on a en soi pour arriver à remonter. Et ce texte chassidique, un peu plus loin, continue, il nous dit que le point à retenir est le suivant, c'est que quand un homme est dans un contexte lumineux, que tout va bien sur le plan de son travail spirituel, alors ça s'opère d'après une ascension continue, degré après degré, mais on ne peut pas savoir là ce que l'homme fait par ses propres forces, parce qu'il est porté par l'environnement, il est porté par le milieu. Et ce qu'on dit ici sur le plan spirituel est valable sur tous les plans. Et le texte nous dit, mais s'il survient une situation et un contexte de descente qui se fait jusqu'au bout, jusqu'au plus bas possible, et si l'homme malgré tout n'est pas influencé par cela, et il poursuit son travail avec toute l'intensité qu'il faut, alors il y a un élément de nouveauté dans ce travail que l'homme accomplit par ses propres forces. Et là, l'acquis de ce travail demeure fixe et éternel, il survit à toutes les époques et les situations. Voilà, je vous ai lu le texte. C'est-à-dire que du fait d'être privé de l'environnement qui le porte à bout de bras, qui lui permet de progresser, aussi bien ici on parle bien sûr sur le plan spirituel, mais on pourrait parler sur d'autres plans psychologiques et autres, alors ça oblige finalement l'homme à puiser en lui des nouvelles forces, et là c'est une véritable acquisition. C'est pas quelque chose d'extérieur qui le porte, ça vient de lui. Et comme nous le dit ici le texte, l'acquis de ce travail demeure fixe et éternel. Voilà. Et donc, l'exil, en ce sens, a été fructueux pour nos ancêtres. Ce thème du bâton, on le retrouve également avec le 3e patriarche qui s'appelle Jacob, Yaakov en hébreu. Mais là, c'est la force que Yaakov a suscitée par lui-même, et non à cause des événements extérieurs, une perte extérieure qui l'a poussé à aller chercher cette force en lui. De lui-même, il cherchait toujours cette force-là. Pourquoi ? Parce que le tzaddik, le juste avec un grand J, celui qui est proche de Dieu, n'a pas besoin de circonstances extérieures pour avoir justement cette ascension. Et Yaakov, qui a dû fuir son frère qui voulait le tuer, il est parti se réfugier chez son oncle où il a été berger, et quand il revient des dizaines d'années après vers la terre d'Israël, il se trouve au bord du Jourdain, et alors il dit à Dieu toute sa reconnaissance, il dit « Je mesure tout le chemin accompli, car avec mon bâton j'avais traversé ce fleuve, et maintenant me voici à la tête de 2 campements, des campements de bétail, serviteurs, servantes, etc. » Et à propos de cette phrase « avec mon bâton j'avais traversé le Jourdain », Rashi nous donne 2 explications qui semblent aller en sens complètement divergent. Oui, la première explication, c'est de dire « oui, j'étais un très pauvre à l'époque, je n'avais que mon bâton, j'étais comme un clochard, et maintenant me voilà très riche à la tête de 2 campements. » Et puis la 2e explication, c'est que avec mon bâton, j'avais traversé le Jourdain, c'est-à-dire il a planté son bâton, il a planté sa canne dans l'eau, et l'eau s'est fondue en 2, comme le passage de la mer Rouge. Alors on ne comprend pas, d'après la 1ère explication, c'est le plus grand dénuement, ah j'étais un clochard, j'avais juste mon bâton. D'après la 2e explication, c'est une puissance, une force énorme, à savoir j'ai mis mon bâton dans l'eau et l'eau s'est fondue pour me laisser passer. Alors on dit ceci, c'est que l'homme qui a fait tout ce travail comme Yaakov se trouve face à Dieu. Et face à Dieu, il est face à l'infini et donc il se sent rien du tout. Mais le fait qu'il se sente rien du tout, c'est la preuve d'une grandeur. C'est pas tout le monde qui sent l'infini, c'est pas tout le monde qui peut se comparer à l'infini et dire je ne suis rien, n'avoir aucun ego. Donc ça, c'est l'aspect pauvreté du bâton, je n'avais que mon bâton, c'est-à-dire ici, tout le travail qu'il a fait sur lui-même l'a amené à se considérer comme zéro. Mais ce n'est pas n'importe qui peut se considérer comme zéro dans les sciences également. Si Einstein venait nous dire « je me rends compte qu'on n'a encore rien compris en physique », on va l'écouter religieusement parce qu'il connaît suffisamment de choses pour savoir ce qu'on ignore encore. Alors l'homme qui est devant Dieu, finalement, comme il est justement devant l'infini, il peut mesurer, lui, sa véritable petitesse. Oui. Et justement, étant donné qu'il est tellement haut que grâce à l'infini qu'il a en face de lui, il peut se mesurer comme étant zéro, il n'a plus d'ego. C'est pour ça qu'il acquiert cette force, qu'il a pu faire ce miracle de fendre le Jourdain en deux. Voilà. Et en fait, ça me rappelle la fameuse blague que j'avais racontée une fois, je vais quand même la raconter une deuxième fois, elle me plaît beaucoup, à savoir que vous avez un coche avec deux rabbins qui sont assis derrière le cocher fouette les chevaux devant, et puis il y a un rabbin qui dit à l'autre, « Moi, mon cher collègue, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait presque rien, je suis un zéro, vraiment, je sens que je n'ai pas fait le dixième de ce que j'aurais pu faire, etc. » Et le deuxième rabbin répond en écho, « Et moi, mon cher collègue, qu'est-ce que je devrais dire? Dans ma vie, je n'ai pas fait grand-chose, etc. » Et le cocher qui les entend parler ainsi se tourne vers eux et dit, « Et moi, messieurs les rabbins, qu'est-ce que je devrais dire, moi, pauvre cocher qui ai passé ma vie à fouetter des chevaux? Je suis rien, j'ai rien fait, je suis un zéro. » Et là, un des deux rabbins se tourne vers le cocher et lui dit, « Quoi? Toi aussi, tu te prends pour quelqu'un maintenant ?» Alors cette blague, elle est à décrypter à deux niveaux. À un premier niveau, on se moque en quelque sorte de, comment dire, de la fausse modestie des rabbins, voilà, qui apparaît à la fin seulement. Quand ils disaient « oui, je suis un zéro », etc., en fait, ils n'y croyaient pas du tout. Mais à un degré plus profond, et il peut y avoir plusieurs étages, même dans une blague, dans n'importe quel discours, quand ils lui disent « quoi, toi aussi, tu te prends pour quelqu'un maintenant ?» ils veulent dire « pour se trouver zéro, il faut avoir un sentiment quelque part de l'infini. Et si tu ne l'as pas, ça ne veut rien dire que tu te sens zéro. Se sentir authentiquement zéro, ça demande une grandeur, une véritable grandeur. » Et ça, c'était Yaakov. Donc, c'est le thème du bâton qui se poursuit ici. Dans la paracha que nous allons lire, le bâton qu'on trouve dans la Haftara, la branche d'Amandier, et le fait que notre paracha s'appelle les bâtons et les tribus en même temps, puisque les tribus sont nommées comme étant des bâtons, alors on a dit que c'est le durcissement qui permet le retour d'exil, puisque l'amande, on l'a dit, elle est amère au début, elle est douce à la fin, et l'exil, effectivement, sera amer au début et doux à la fin. Mais il faut tenir dans l'épreuve, et l'épreuve n'est pas faite pour nous briser, elle est faite pour susciter en nous toutes les forces que nous ignorions jusque-là et dont nous sommes capables. Ça, c'est dans la paracha de cette semaine. Et dans le bâton de Yaakov, Yaakov, sans les épreuves extérieures, par son propre travail, a été capable de susciter en lui ses forces exceptionnelles. Et donc, de s'approcher de l'infini, de se sentir rien du tout vis-à-vis de l'infini, mais c'est une chose immense. Et grâce à ça, il a pu faire ce miracle de mettre son bâton dans l'eau et le fleuve s'est fondu. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre ce qui est écrit dans les psaumes. Dans les Tehillim, on dit, je le cite d'abord en hébreu et je vais traduire, « Mishpat utzedaka b'yaakov ata asita » La justice et la charité, tu as opéré dans Yaakov. Alors on pose la question, la justice, c'est pas la charité. Quand il est juste que quelqu'un perçoive de l'argent, il a un droit à percevoir ceci ou cela, il ne demande pas la charité, il demande son dû. Et la charité, c'est quand on n'a aucun droit et qu'on demande la pitié des autres. Alors comment on a pu mettre sur le même plan justice et charité? Et on répond justement que les gens qui sont très proches de Dieu, il serait juste qu'ils demandent leur récompense. Ils n'auraient pas besoin d'implorer Dieu, ils pourraient dire « je veux être payé pour tous mes mérites, pour tout ce que j'ai fait ». Mais malgré tout, ils le demandent à titre de charité. Parce que quand on est devant l'infini, on n'a pas cette arrogance de dire « il me revient ceci, il me revient cela », parce que tout ce qu'on a fait ne pèse rien, on n'a pas d'ego. Alors là, effectivement, on demande comme si on n'avait aucun droit. On demande à titre de charité. C'est-à-dire, c'est une grandeur qui fait que l'homme ne sent plus son ego et il ne demande plus, donc, à titre de droit. Comme si ce qu'il a fait n'a pas pour lui de densité, n'a pas d'épaisseur. Parce qu'au niveau où il est, il n'a pas d'ego et devant l'infini, il sent que tout ça, finalement, ça ne pèse pas, c'est rien. Donc, je vais synthétiser. Dans la Haftara, le passage des prophètes qui accompagne la paracha, on parle de l'amande. L'amande, elle met 3 semaines entre la floraison et le fruit, tout comme entre la première brèche dans la muraille de Jérusalem, faite par les Romains, le 17 Tammuz, et ensuite, le 9 Av, l'incendie du temple, il y a 3 semaines. Mais le lien n'est pas simplement un lien de chiffres, c'est que, tout comme l'amande est amère au début et douce à la fin, l'exil juif sera aussi amer au début et doux à la fin. Mais pourquoi dans ce cas-là, Dieu n'a pas montré à Jérémie une amande, il y a montré une branche d'amandier mais complètement dénudée? Parce qu'il veut lui dire, la branche, le bâton, makel en hébreu, c'est la force, ça symbolise la force. Et c'est par cette force que l'on prend sur soi, par ce durcissement, que l'on arrivera à transformer l'exil d'amer en douceur. Merci de m'avoir écouté.